Top, c'est parti.
Comment ça marche le journalisme?
Sur Twitter, Instagram.
On est dans un moment de grande confusion.
C'est votre dernier mot.
Une minute d'avance, 9h39, vous êtes sur France Inter et c'est l'instant M qui recommence.
Avec nous.
Les images, les correspondants en direct.
C'est une aventure le journalisme et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique.
Octobre 2016, breaking news planétaire, la star de télé-réalité Kim Kardashian, venue assister au défilé, s'est faite cambrioler dans son hôtel parisien. Omar, Didier, Younis et Nérapé se font la malle à bicyclette, 5 millions de dollars de butin sous le coude. Ils diront de leur proie, bah pour nous, c'est une pute. De fait, cette surpuissante étoile américaine est née à la célébrité en filmant son cul et ses ébats. Elle et ses sœurs sont refaites et collagénées de la tête aux pieds. Tout est à vendre chez elles, leur famille, leur corps, leurs mecs, leurs produits dérivés, mêlés à leurs engagements. Car ces créatures médiatiques pures et dures se révèlent pourtant, au fil des années, un clan d'Amazon extraordinairement libérateur et influent. Il aura fallu ce braquage extravagant chez nous, en France, pour qu'une grande maison d'édition se penche sur le phénomène Kardashian. Il était temps.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
J'ai regardé le pistolet, puis les escaliers. J'ai pensé que j'avais un centième de seconde pour prendre une décision. Est-ce que je vais m'enfuir par les escaliers et ils vont me tirer dans le dos? J'en suis encore bouleversée, mais soit ils vont me tirer dans le dos, soit j'arrive à m'enfuir. Mais si l'ascenseur ne s'ouvre pas à temps, ou si la porte des escaliers est fermée, je suis foutue. J'ai aucune façon de m'en sortir.
Kim racontant le braquage à ses sœurs. Bonjour Pauline Delassus.
Bonjour.
Alors, vous êtes écrivaine, vous êtes journaliste à Paris Match. Vous publiez chez Grasset La Nuit de Kim Kardashian. Oui, oui, Kim Kardashian, ouais. Chez Grasset, vous ne rêvez pas. Rencontre avec fracas entre deux mondes, des voyous franchouillards à l'ancienne et une star hollywoodienne. Alors évidemment, dans l'instant M, on s'intéresse ce matin au versant américain de votre enquête. Car si le monde entier connaît Kim, c'est à travers les 250 épisodes de sa télé-réalité, L'incroyable famille Kardashian, diffusée aux États-Unis depuis 2007. Et puis la myriade de comptes suivis, je ne mens pas, par 230 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Je répète, 230 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux.
Que pour elle, voilà. Ses sœurs, c'est encore plus.
Évidemment. Alors, Pauline Delassus, j'aimerais que vous nous décriviez, parce que c'est très intéressant, cette bourgeoisie hollywoodienne des années 80 dont vous tirez le portrait dans une ville qui s'appelle Calabasas, où elle vit toujours, où elle est née. Une sorte de commune bourgeoise et aseptisée, dites-vous, née à la fin du 19e siècle, dans la vallée de San Fernando, au nord de Los Angeles. Qu'est-ce que c'est que cette classe sociale qui n'est ni tout à fait en haut, ni tout à fait en bas?
C'est une petite bourgeoisie qui est finalement assez banale aux États-Unis, mais qui veut absolument réussir. En tout cas, Kim et ses parents, son beau-père, ils veulent réussir, ils veulent devenir des gens importants à Hollywood et à Los Angeles, en Californie, aux États-Unis évidemment encore plus.
Et c'est quand même des gens qui jouissent déjà d'un très grand confort matériel.
Ils sont aisés, c'est sûr. Mmh. La mère travaille pas et y a beaucoup d'enfants, donc c'est pas non plus. Enfin, ça n'a rien à voir évidemment avec l'opulence d'aujourd'hui. Mais oui, c'est de la bourgeoisie, quoi. Vraiment, tout va bien dans leur vie. Et ils sont entourés en fait de gens un petit peu connus. Alors évidemment, il y a Michael Jackson, très connu, mais il y a aussi des gens un peu moins connus. Il y a des gens.
Kim Kardashian a une première aventure de jeunesse.
Exactement.
Avec le neveu
son premier petit copain, ouais. C'est le neveu de Michael Jackson, un des 3T, c'est un boys band des années 90. Donc ça, c'est son premier petit goût de la célébrité. Et puis il y a son parrain, surtout O.J. Simpson, qui est très proche de ses parents, qui sont son parrain, et qui est une star.
Alors O.J. Simpson, il faut absolument raconter qui c'est en effet le meilleur ami de Robert Kardashian. Robert Kardashian, c'est le papa, il est businessman, il est avocat d'affaires, il est le parrain de Kim. O.J. Simpson, c'est un immense joueur de football américain qui est noir.
C'est le Zidane, si on peut dire, à l'époque, c'est leur Zidane.
Exactement. Il a été condamné pour avoir cogné sa femme Nicole, qui est la meilleure amie de la maman de Kim. On la retrouvera morte, assassinée quelques mois après, et c'est un procès qui divisera l'Amérique. On s'en souvient.
All right, Mr. Simpson, would you please stand and face the jury? This is Robertson.
Superior Court of California, County of Los Angeles, in the matter of the people of the state of California versus Orenthal James Simpson, case number BA097211. We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder.
Not guilty. Mais il faut raconter, Pauline Delazue, la folie médiatique qui a été le procès O.J. Simpson.
C'est une folie médiatique parce qu'il est extrêmement connu, que le crime est extrêmement violent. C'est un double homicide, couteau, qui est vraiment atroce. On se rend compte que Nicole, son épouse, était battue depuis des années. Donc c'est un féminicide, comme on dit aujourd'hui. Oui. Et ça prend des proportions parce que les avocats de la défense utilisent les origines et la couleur de la peau d'O.J. Simpson pour en faire une affaire raciale, en fait. Et donc ça, dans une Amérique qui est déjà et toujours extrêmement divisée par le racisme, ça prend des proportions dingues. Et Kim Kardashian est aux premières loges parce que son père est donc le meilleur ami et l'avocat d'O.J. Sa mère, elle, prend parti pour la victime et donc est assise avec la partie civile au procès. Et Kim se rend au procès plusieurs fois. Elle se fait raconter tous les soirs les audiences par son père. Et voilà. Et donc il s'agit de tante Nicole, comme elle dit, et de son parrain. Donc c'est vraiment les gens qu'elle connaît. Elle connaît leurs enfants très bien, elle les a vus naître. Et donc ce crime et cette notoriété du procès qui est tragique, mais qui quand même lui donne aussi ce goût de la notoriété et aussi marque une vie quand même, en partie en tout cas, de violence et lui la met tout de suite dans une Amérique très dure où on meurt comme ça. Et aujourd'hui, ça rejoint son engagement de vouloir devenir avocate, son engagement pour contrôler le port d'armes aux États-Unis, pour la réforme carcérale. Donc tout ça,
y revenir, mais ça fait quand même une évolution absolument passionnante parce que on va revenir à ses premières années, ses années d'adolescence. Elle est la meilleure copine de Paris Hilton. On vous passe le son en anglais, comme ça vous entendez sa voix. Elle m'a offert toute ma carrière. Je ferai tout pour elle, mais alors vraiment tout.
I really would want to do anything for her. She literally gave me a career.
My career. Voilà, c'est la meilleure copine de Paris Hilton, qui est une fille, une héritière de l'empire hôtelier Hilton, fille de millionnaire, filiforme, blonde, stupide, vulgaire, croqueuse d'hommes, etc. Et à l'époque, Kim Kardashian, c'est un peu son faire-valoir. Ce qui est super intéressant, Pauline Delassus, c'est que vous racontez ces années 2000, les années de cette jeunesse très Britney Spears, finalement.
Oui, c'est ça. Britney Spears est la pop star de l'époque, celle qu'elles admirent. Paris Hilton, elle est au sommet de la notoriété, tandis que Kim Kardashian est inconnue. Et c'est en traînant et en passant beaucoup de temps avec Paris que finalement, au bout d'un moment, un paparazzi apprend son nom. Elle est dans les légendes photos, elle n'est plus la copine, elle devient Kim Kardashian. Ouais. Et elle s'inspire d'elle, elle apprend beaucoup d'elle, c'est vrai. Et sauf que l'histoire, c'est qu'elle la dépasse ensuite largement. Parce que,
très largement. Voilà, très largement.
Et que ses ambitions sont bien supérieures et son intelligence sans doute aussi, et sa force de travail, parce que Paris Hilton, elle sort beaucoup, elle picole, voilà, il y a quelque chose de plus festif et de
quant
plus...
à Britney Spears, elle va sombrer dans la dépression, dans les addictions, elle va se raser le crâne devant les caméras, alors que...
Kim, elle tient la route, quoi.
Elle tient la route.
Elle sort pas et elle reste
mais elle démarre
motivée.
Bien bas, elle démarre avec une sextape, c'est-à-dire qu'elle est filmée en train de faire l'amour avec son petit copain pour
rappeur.
Elle
se filme.
Elle est consentante. L'époque, voilà, elle est absolument consentante. Et la vidéo sort, elle est même éditée en DVD. Personne ne dira jamais qui a fait sortir cette vidéo. Sauf que cette vidéo, elle a été négociée $1 million, racontez-vous, ensuite à un éditeur.
Oui, c'est-à-dire que Kim et son petit copain, donc les deux héros de la sextape, se mettent d'accord pour vendre les droits de la sextape. C'est-à-dire que ça fuite et au lieu de dire je vais la faire interdire, elle capitalise dessus, et elle le vend. Alors il y a beaucoup de rumeurs qui disent que c'est peut-être sa mère qui l'aurait fait fuiter dès le départ. On ne sait pas, peut-être elle ou peut-être lui. Enfin, en tout cas, elle s'en sert et elle vend les droits. Elle prend les choses en main. En fait, elle se fait pas du tout avoir dans cette histoire.
C'est entourée d'un exercice de communication très maîtrisé, puisque ensuite elle fait le tour des plateaux télé, elle s'excuse, elle demande pardon dans un exercice de contrition très américain.
Même année démarre l'émission de télé-réalité. Donc en fait, ces deux choses-là, c'est-à-dire qu'elle devient une star sur Internet avec le film et une star à la télé. À l'époque, la télé quand même compte, en 2007, compte beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et ces deux événements se rencontrent et font un big bang de célébrité.
Alors c'est la mère qui a initié ce projet de télé-réalité, c'est la mère qui a utilisé son carnet d'adresses semi-mondain californien pour aller débusquer l'homme qui deviendra le producteur et le concepteur de l'incroyable famille Kardashian.
Oui, la mère est femme au foyer. Elle est mariée à Bruce Jenner, qui est un champion athlétique, enfin olympique, pardon, mais qui gagne pas beaucoup d'argent. Le Robert Kardashian verse des pensions, mais c'est pas suffisant, donc faut bosser, quoi. Et elle regarde toute la journée la famille Osborne, qui est une autre télé-réalité, et tout d'un coup, elle se dit, mais pourquoi on fait pas pareil? Chez moi, j'ai plein d'enfants. Et donc, c'est avec Kim que toutes les deux, elles ont cette idée. Les autres sœurs sont pas très partantes au départ, elles sont réticentes. Et elle dégote ce Ryan Seacrest, qui est un jeune loup de l'entertainment américain. Elle file en aiguille, elles arrivent de contact en contact, et il vient filmer comme ça pour voir un barbecue chez les Kardashians, Jenner, et là il se rend compte que c'est dément, parce qu'il y a plein de gamins partout qui hurlent, qui se disputent pour un rien, qui disent des fuck à tout bout de champ, ce qui pour l'Amérique est
Et puis il y a une palanquée de jeunes filles qui en font des caisses et des caisses et caisses dans une hystérie.
Très mauvaise actrice.
Tout à fait surjouée, on vous fait écouter ce que ça a donné au départ.
Qu'est-ce que tu fais? Oh, le léopard. On porte les mêmes tons. Je porte du noir. Ça n'a rien à voir. Non, tes bottines marron.
Oh oui, Gina.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe?
Rien, je me prépare pour New York.
Tu vas avoir besoin de cette veste là-bas.
Je n'étais pas encore prête à quitter la maison. Et je n'ai pas très envie de me montrer. Mais je pense que les manteaux me cacheront.
Tu n'es pas si énorme.
Ben non, tu n'es pas si énorme. Nous vous racontons ce matin l'Odyssée Kim Kardashian et vous n'y croyez pas, mais on va vous montrer que ça devient totalement passionnant au fur et à mesure des saisons. Les caméras tournent 6 mois par an dans quelques pièces de ces gigantesques villas. Racontez-vous, Pauline Delassus, dans votre livre. Ce sont des fausses façades qui sont montrées à la télé pour protéger quand même, pour garantir leur sécurité. On fait attention aux enfants, mais derrière, c'est un empire. Produits dérivés, création d'entreprises, jeux vidéo, vêtements, maquillage... Kim gagne 45 millions de dollars par an. Sa petite sœur Kylie est devenue la plus jeune milliardaire du classement Forbes à 21 ans.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que maintenant, cette émission de télé qui, franchement, pas très intéressante, qui détend un peu le cerveau, mais où il se passe pas grand-chose, c'est un peu juste le bout de l'iceberg aujourd'hui. Ce qui vraiment est intéressant, c'est tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout ce qui se passe ailleurs dans les médias, tout ce qu'elle vend. Et dès le début, en fait, elles comprennent, Kim, sa mère et les sœurs, qu'il faut capitaliser là-dessus. Et très vite, elles font des produits dérivés, elles font des spin-offs aussi. Il y a plein de Kim et Courtney à New York, Chloé et machin à Bidule.
Plein de programmes annexes.
Voilà, annexe et donc ça cartonne aussi et elles sont très malines et très vite elles investissent
très
les réseaux sociaux.
Très malines, et vous dites justement les paparazzis la suivent jour et nuit, jamais elle ne les congédie, jamais. Donc leur métier de chasseur d'images semble moins amusant sans l'adrénaline, écrivez-vous. La cible donne tout, il n'y a plus rien à voler. Elle se met elle-même en scène en permanence.
Oui, c'est vraiment une célébrité nouvelle et c'est assez symptomatique de l'époque. Et c'est elle sans doute qui a lancé ça, c'est que c'est une célébrité par soi et pour soi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on prend plus de photos de Kim, on prend une photo de soi avec Kim, par exemple. Ouais. C'est elle qui lance le selfie. C'est voilà, donc tout ça change vachement la célébrité, la société, enfin la pop culture et ce que les jeunes regardent, écoutent et like. Et voilà, donc elle a une influence
absolument gigantesque. À partir de là, il faut raconter aussi quel est le message que délivre au fur et à mesure cette émission et ses personnages à mesure de leur évolution. On va commencer par la famille. Vous avez dit Chris a divorcé. D'ailleurs, le père, Robert Kardashian, est mort quand Kim avait 23 ans. Elle se remarie avec un athlète multimédaillé, Bruce Jenner. En tout, elle a eu 4 enfants d'abord. Elle en aura 2 ensuite. Donc, cette espèce de fratrie de famille recomposée. Et puis, cet athlète, Bruce Jenner, qui va bientôt entamer sa transition, devenir la femme qu'il a toujours senti en lui. Ça se fera sous les caméras de télévision, ça se fera avec le soutien et l'assentiment de Kim Kardashian, qui devient, en fait, au fur et à mesure, une forme de militante des libertés LGBT.
En fait, c'est elle qui, la première fois, découvre dans la famille que Bruce Jenner, son beau-père, donc il a quand même élevé une grande partie de sa vie, s'habille en femme. Elle le voit habillé en femme dans le garage de la maison, donc elle est extrêmement choquée à la vingtaine à l'époque. Et elle comprend. Et il lui dit « je t'expliquerai un jour » par texto. Et bon, elle dit rien pendant des années, elle se tait, elle veut pas, parce que sa mère, elle ne sait pas vraiment l'ampleur du mal-être de son mari. Donc elle dit rien. Et quand il décide vraiment de devenir une femme, c'est elle, ça sa première confidente, et c'est elle, oui, qui dit il faut qu'on en parle dans l'émission. Donc il y a plusieurs émissions de leur télé-réalité qui est consacrée à la transition de Bruce en Caitlin.
Caitlin aura son propre show.
Voilà, Caitlin aura son propre show qui marche moins, mais voilà. Et surtout, oui, c'est tout là qu'elle prend sur ses épaules une grande part de la communauté LGBT américaine. C'est-à-dire qu'elle devient une militante, le visage, la voix des transgenres, et c'est ce qui dans cette Amérique-là est très frappante, très controversée. Elle perd beaucoup de fans, elle en gagne beaucoup
énormément.
D'autres. Et ça tranche avec leurs croyances. Elles sont très croyantes, très très religieuses, les Kardashian, et en même temps extrêmement libres d'un point de vue des mœurs et de sociétal.
Donc extrêmement libres aussi d'imposer à la société leur corps avec des silhouettes qui ne cessent de se transformer sous les caméras, des popotins XXL, des seins complètement refaits, des lèvres. En fait, elles ne font que s'ajouter des formes. Elles deviennent tous des espèces de Vénus Calipiges qui seront leur signature médiatique. En réalité, elles ont à elles seules transformer la silhouette féminine au niveau mondial. C'est-à-dire, peut-être Jennifer Lopez avait un peu d'avance, mais c'est elle qui l'ont inscrite dans le marbre médiatique.
C'est grâce à elle que plein de marques de luxe aujourd'hui font des vêtements pour ce genre de silhouette. Mm-hmm. Alors qu'au début de la carrière de Kim, non seulement personne ne veut l'habiller parce qu'on la trouve trop look, mais en plus, elle ne rentre pas. Voilà. Ouais. Donc c'est l'anti-Kate Moss, c'est-à-dire qu'elle crée cette nouvelle silhouette. Elle est déjà, au départ, petite et ronde, avec des formes, et elle ne fait qu'accentuer ça. Ouais. Elle va dans... Mais comme tout, chez les Kardashian, tout est à l'excès. De la même manière, leur matriarcat, leur féminisme est à l'excès, leur...
Mais c'est passionnant ce matriarcat, parce que Pauline Delassus, vous décrivez justement une société gouvernée par une mère. Le premier mari est mort, le deuxième est devenu la femme qu'il voulait être. Il y a bien un frère, mais il est complètement caché, dépressif, obèse, plus personne ne le voit. C'est une histoire de mère et de sœur. Ce sont des femmes qui finalement vont imposer le pouvoir des femmes à coup de chirurgie esthétique et de business. De maquillage. Tout à fait un autre genre de féminisme.
Oui, mais qui est quand même un féminisme, parce qu'elles ne le font pas pour se soumettre aux hommes, elles le font par ambition et par volonté de faire de l'argent, certes. Hein, c'est un point, c'est une volonté très cupide et vide, quand même, assez parfois triste. Mais en tout cas, elles sont autonomes, indépendantes. Kim, elle ne dépend d'aucun grand groupe de luxe. Elle a que ses marques à elle, et personne aujourd'hui ne peut lui dicter quoi que ce soit, peut-être à part sa mère. Mais...
Elles imposent aussi des union mixte, c'est-à-dire qu'elles se sont toutes sorties, mariées, elles ont fait des enfants avec des hommes noirs, à part peut-être Courtney, l'aînée, toutes, y compris la mère, qui a un boyfriend qui a 25 ans de moins qu'elle, si ce n'est 30 ou 35 ans de moins qu'elle. Donc voilà. Et ça ne fait l'objet d'aucun commentaire. C'est totalement naturel.
Pour elle, c'est naturel, c'est pas un sujet. Et ça, c'est hyper fort, parce que dans une Amérique raciste, dans un monde où le racisme est si présent.
Son enfance dans l'affaire O.J. Simpson.
Voilà, exactement. Elles savent de quoi elles parlent. Elles connaissent cette Amérique-là. Ouais. Elles savent très bien. Et donc, c'est très fort d'en imposer, sans même en parler, ces mariages mixtes, ces enfants métis. C'est une arme politique très importante.
Alors, politique toujours et politique vraiment, cette fois-ci, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Kim Kardashian, on va dire, acquiert petit à petit une conscience politique, et elle va prendre fait et cause pour une grand-mère incarcérée à perpétuité, pardonnez-moi, pour trafic de drogue. Elle va demander une grâce présidentielle à Donald Trump, qui la reçoit en personne, et elle va l'obtenir. On l'entend au téléphone lui annoncer qu'elle va être libérée.
Miss Alice.
That's Kim.
This is Kim. It's Kim. Hi, Kim. How you doing? Angel, my war angel.
I cannot believe it. We did it.
What happened?
We did it. You don't know?
No, she doesn't know. You're telling her the news.
Oh, my gosh, Alice. You're out.
Yes.
De la télé-réalité à la réforme carcérale, ça, c'était du jamais vu en Amérique et même n'importe où dans le monde. Kim Kardashian qui prend fait et cause pour les prisonniers en Amérique. Kim Kardashian qui veut devenir avocate et qui va devenir avocate.
Sans doute, ouais.
C'est l'histoire d'une mue. Votre roman aussi, votre enquête, Pauline Delassus.
Oui, c'est-à-dire qu'elle revient finalement un peu à son enfance quand même, à son père qui est avocat et au procès auquel elle a assisté et à tout ce sujet pénal de crime qui l'intéresse déjà beaucoup à l'époque. Mais elle y vient petit à petit et là maintenant elle a repris ses études, elle fait ça pas à la faculté mais avec deux avocates qui sont ses mentors. Elle passe pendant deux ans, elle va suivre leur apprentissage, pardon. Et finalement,
d'ailleurs, c'est très
passe
drôle parce que les voyous Franchouillard, qui ont été arrêtés 3 mois après l'avoir braqué à Paris, sont aujourd'hui en tôle. Le cerveau de cette mauvaise affaire, Omar, lui écrit une lettre depuis la maison d'arrêt de Beauvais. Elle la reçoit et elle aurait dit à ce moment-là, le jour où il sera jugé, moi je serai avocate, je pourrai le défendre.
Oui, elle aurait dit ça, ce qui évidemment montre son humour. Et ça, c'est une partie importante aussi de son émission et de sa personnalité, c'est qu'elle a du second degré, elle est pas dupe de ce qu'on pense d'elle.
Mais en fait, vous décrivez une femme très intelligente.
Ah oui, elle est très intelligente.
Très intelligente.
Évidemment qu'elle est intelligente. Elle ne serait absolument pas là si elle l'était pas. Après, elle a des centres d'intérêt qui sont, qu'on peut considérer comme trop superficiels, évidemment, mais elle est intelligente. C'est une femme d'affaires déterminée. Oui.
On se sent un peu seul en France quand on écrit et qu'on pense Kim Kardashian. C'est-à-dire vous êtes la seule hein, à avoir commis un ouvrage publié chez Grasset sur Kim Kardashian que je trouve moi une histoire absolument passionnante.
Oui, c'est sûr que c'est pas un sujet qui en France est vraiment considéré. Il y a un grand snobisme par rapport à elle, parce qu'on la connaît pas, donc on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière l'image de la bimbo. Donc forcément, on la prend pour une idiote. Et c'est pas du tout le cas quand on s'y intéresse. Et ça qui m'a intéressée, c'est de creuser derrière, montrer les paradoxe. Et oui, en France, en Europe, c'est vraiment, elle est méprisée. Ça commence à changer avec la mode et le luxe qui, maintenant, l'invite partout après l'avoir mal considérée. Maintenant, évidemment, ils veulent absolument bénéficier de son influence et de son pouvoir. Donc,
ça, avec un grand pan de votre ouvrage aussi qui est consacré à sa foi chrétienne. Et ça aussi, c'est une analyse extrêmement intéressante. La nuit de Kim Kardashian est donc parue chez Grasset et c'est signé Pauline Delassue. Merci d'être venue dans l'Instant M nous raconter cette histoire.